Et un deuxième aspect, un autre aspect qui est fondamental de comprendre en cette saison, c'est à quoi correspond dans le monde et dans le monde même des ténèbres ou dans le monde païen, à quoi correspond cette fête, ce jour de solstice d'été, et comment est-ce que c'est exploité, et qu'est-ce qu'il œuvre dans le monde des ténèbres, et qui doit attirer notre attention, qui doit retenir notre attention, et qui va être prise en compte par nous, parce que nous sommes les soldats de l'Éternel. Et nous ne devons jamais perdre de vue que nous sommes en bataille, et que l'Éternel attend de nous que nous montons à la brèche, et que nous proclamons les choses, afin d'œuvrer pour l'avènement du royaume de Dieu. Alléluia. Il y a un événement qui est important, c'est ce qu'on appelle la fête de l'eau. Le mois d'été, et particulièrement la date du solstice d'été, est inscrit de façon courante, de façon dans beaucoup de pays, en Europe particulièrement, comme étant la saison de la fête de l'eau, de la fête des sources. D'où sort cette fête, cette cérémonie, en quoi ça consiste de façon globale. Je vais en citer comme ça quatre centres de manifestation un peu de ces eaux. Par exemple, quand on étudie un peu les puissances, je faisais dresser la cartographie des pays de la loi, la cartographie spirituelle de la France dans le cadre du résultat du Saint-Esprit, de le faire dans le cadre de mon travail spirituel. Et je découvrais l'impact de ces croyances, de ces pratiques-là, dans le cadre spirituel, dans le monde spirituel. Je découvrais, par exemple, que l'Ordre de Malte célèbre une fête particulière, le jour de la fête de la Saint-Jean, qu'ils définissent être le 24 juin. Le 24 juin, c'est le jour de clôture où les 3-4 jours de mobilisation du soleil prend fin et que les jours commencent à décliner. Et ils fêtent ce jour-là particulièrement. Cette fête est célébrée pour l'Ordre de Malte, mais c'est aussi célébré ce qu'ils appellent la fête, la cérémonie des cercles des trois sources. Et les trois sources au pied du mont Gerbier de Jong, qui est la source du fleuve la Loire, qui arrose tout le côté ouest de la France. Ils font une cérémonie ce jour-là en point du tronc commun des trois sources de ce fleuve-là, qui est au mont Gerbier de Jong. Elle est célébrée également, ce qu'on appelle, au moment des solstices d'été, les fêtes des sources et des fontaines. Dans presque toute la France et l'Europe, on fête ces fêtes autour des points d'eau qui ont été répertoriés, avec des cierges, des amphores, on fait des incantations, on offre des pièces ou autres présents, on danse, on fait des feux de joie, et on danse jusqu'au matin, on fait même des bains avec des incantations, avec des cérémonies, voilà, autour de ces différentes sources. Et aussi, pour ne citer que ça, parce que c'est un fait assez marquant, en Irlande, ils fêtent ce que l'on appelle la Saint-Patrick. Et c'est un jour particulièrement qui célèbre toujours autour de ces dates-là et qui consiste pour à colorer toutes les eaux d'Irlande en vert. Ils remontent jusqu'aux sources et ils mettent un mélange, un colorant, une mixture, certainement en faisant toute une cérémonie. Et ça a la capacité, partant des sources, d'imprégner toute l'eau et le fleuve entier devient vert. Et quand on sait que dans les pays, de toute façon, l'eau, cette eau des rivières, les eaux des fleuves qui traversent, sont des eaux qui alimentent les circuits d'approvisionnement en eau des habitants, d'une façon comme d'une autre. Donc, quel que soit ce que l'on met dans l'eau, quelles que soient ces eaux, contiennent cela, et quelles que soient les implantations, les eaux sont imprégnées de cela. D'où sort, quelle est l'origine même de ce fait, véritablement? Parce que ça vient des pratiques, des fêtes païennes, des cultes païens, célébrés par les druides, des cultures celtes d'avant et qui, au Moyen-Âge, est resté un peu imbriqué dans les habitudes, dans les coutumes, et qui aujourd'hui, comme tout un tas de fêtes païennes qui se sont comme ça imbriquées dans des cérémonies, que ce soit sociales ou même religieuses, passent pour des choses banales, mais en réalité, elles sont tenues et conduites comme ça dans des pays et sur des peuples par des initiés, et pendant que la plupart des gens sont en célébration pour des choses qu'ils ignorent, la plupart des gens sont en manifestation sans y comprendre grand chose, mais font des gestes. Il y en a qui savent exactement à quoi ils retournent et sont initiés pour pouvoir procéder à de véritables cultes. Et c'est des actes d'idolâtrie, et c'est des actes aussi où on soumet parfois tout un peuple. Et ça, c'est très embêtant. La parole de Dieu dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». L'incrédulité, l'ignorance est un véritable mal, un véritable fléau, parce que ça n'absout pas du péché que l'on commet. Cette influence des cultes est restée imbriquée même. Lorsque, dans les années 400 après Jésus-Christ, et tout était les églises primitives, a commencé son expansion un peu, il a atteint le pays où la culture du Moyen-Âge et les cultures païennes existaient. Et lorsque les premiers chrétiens sont arrivés, ils étaient conduits par vraiment des groupuscules qui s'étaient formés à l'époque et qui ont adopté des méthodes assez particulières pour pouvoir implanter le christianisme ou implanter les religions chrétiennes comme la religion catholique ou bien conduite comme des orthodoxes, etc. Et malheureusement, ils ont, dans des régions où ils n'ont pas pu soumettre le peuple directement, ils ont utilisé des aspects, moi je dirais, des méthodes qui ont plutôt conduit à la compromission, qui ont plutôt conduit à la promiscuité, véritablement, à des mélanges de pratiques avec des cultes païens. On voit et on constate que tous les points d'eau qui étaient célébrés, où étaient célébrés les cultes païens, ils arrivaient et ils s'installaient à proximité de ces cours d'eau. Parfois même, ils construisaient les bâtisses qui devaient servir de temples, comme les cathédrales et tout. On constate aujourd'hui qu'ils sont construits sur des anciens puits ou des anciennes sources qui étaient des points d'adoration des dieux païens, etc. Cette approche, c'était pour amener le peuple, je dirais, incrédule, si on veut, ou païen, à continuer à croire qu'ils sont en train d'adorer leur Dieu, mais en les faisant rentrer quand même dans les temples, moi je dirais entre guillemets chrétiens. C'était une façon d'amener le peuple qui allait arriver sans le vouloir et à force allait continuer à rentrer dans ces temples-là, mais dans leur esprit, ils continuaient à adorer leur propre Dieu puisqu'ils retrouvaient les sources dans lesquels ils venaient faire leurs actions, leurs incantations, ils les retrouvaient dans les grottes, au sein de ces bâtisses. Mais le véritable problème, c'est que ça a laissé place à un semblant de conversion, ça a laissé place à un semblant de choses, beaucoup comme la fête de Noël, nous le savons déjà, que ça a été initié et orienté et en correspondance avec les célébrations des dieux païens en la même époque et que l'on a juste avec des mots inversés et dire qu'on va célébrer comme ça la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à cette période, alors que le peuple, encore au fur et à mesure, venait célébrer en fait leur Dieu païen. Le problème de fond, c'est que ces cérémonies commémoraient la vénération de ces sources d'eau. Et lorsqu'ils sont célébrés aujourd'hui, à la fête de la Saint-Jean, c'est un peu un rappel à ces sources, à ces points que les initiés aujourd'hui recherchent, cultivent et entretiennent comme autels. Et quand ils vont se réunir à ces endroits-là, c'est parce que, effectivement, il s'agit bien, que ce soit consciemment pour eux, pour les initiés, ou inconsciemment, de raviver les autels consacrés. C'est l'extension même, aujourd'hui, de l'eau bénite mise à la disposition des fidèles dans nos cathédrales, ou même au niveau de certains pèlerinages, ou dans des diverses grottes, on trouve des bouteilles d'eau. Et dans ces grottes, on entretient en fait des reliques, on entretient en fait des points d'adoration païens de ces divinités-là. Le problème de fond, c'est que finalement, ça, qui est trompé dans ça? Dieu dit dans sa parole qu'il ne partage pas sa gloire et qu'en lui, il n'y a pas de compromission. L'Éternel, Dieu même dans la propagation de l'évangile ou de la chrétienté, n'a pas besoin de compromission. Les lieux de culte, en plein de lieux de culte, dans des cathédrales et autres, depuis l'origine, sont bâtis sur des sites et des édifices de cultes païens. Et les sources, comme des reliques, comme les autels, des grottes, des cryptes, sont à ce jour même encore présents dans ces cathédrales, dans les nefs, dans les autels. Et ça forme des sous-bâtiments même, des autels, des cathédrales, et beaucoup. Les sanctuaires, etc., que l'on découvre par la suite, où on voit qu'à proximité, ou même parfois sur ces sanctuaires païens de l'époque, ont été érigés des temples. Et la plupart des temples, quand on regarde sur le fleuve de la Loire, la plupart des temples, la plupart des cathédrales, la plupart des palais royaux reçoivent un tronc d'eau, un embranchement d'eau, qui arrive toujours en dessous du palais. Et c'était des troncs d'eau et des cheminements d'eau qui favorisaient à l'époque de la construction des célébrations païennes à des périodes données. La parole de Dieu nous enseigne sur la manière qu'il recommande à son peuple de conquérir les territoires qu'il leur livre. C'est vrai, on va me dire c'est l'Ancien Testament, mais les baptistes et tout ce que nous bâtissons, l'Éternel nous en parle. Son lieu de culte, c'est un lieu saint. Deutéronome 7, à son verset 2 nous dit, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par l'interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. » Alléluia. En son verset 16, il dit, « Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. » Donc, tu ne peux pas arriver à un endroit et commencer à faire des compromis par rapport à la rigueur de ta parole que tu suis. Tu ne peux pas chercher à pactiser avec les pratiques contraires à ta propre foi. Parce que l'Éternel lui-même dit, tu es en train de façonner comme ça un piège pour toi. C'est un piège érigé contre toi. Deutéronome 12 nous dit une chose. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chassés servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de détruire, renverser, briser, brûler, abattre, effacer, faire disparaître, sans pitié, sans alliance. Il ne dit pas de détourner, de substituer ou d'incorporer des pratiques païennes à l'œuvre de la vie chrétienne. Parce que c'est un piège. Bien sûr, ce combat de nos jours, vraiment, nous les menons sur le plan spirituel, certes. Mais ces combats doivent être menés et sans compromis. Autrement dit, ces autels demeurent un piège. Et en se prosternant devant ces autels, on est en train de les faire devant des dieux païens. C'est important parce que l'Éternel nous dit qu'il n'a pas de part entre Bélial et lui. Il n'a pas de part entre cette pratique-là et lui. Parce que ce genre de pratique et tout, dans le temps, ont donné lieu à l'évolution d'une religion chrétienne qui est compromise, qui est mélangée aux célébrations confuses, mi-sacrées, mi-païens, etc. Comme la fête justement de la Saint-Jean, qui est cette fête de l'eau là, comme les mercredis des cendres, la fête de Halloween, la fête de Noël, les fêtes dédiées aux vierges noires ou blanches que l'on trouve dans les baptistes, dans les cathédrales, la cérémonie de l'eau bénite et tout ces cérémonial là datent justement de ces époques et de ces mélanges qui ne trouvent pas leur fondement dans la Bible, dans les Écritures. Et ça prête à confusion, et ça prête à mal. La plupart de ces influences-là, qui sont rattachées à l'eau, aux sources ou aux puits, tirent leur importance du fait que le peuple, d'une façon ou d'une autre, a besoin de l'eau. C'est suffisamment important pour que le Seigneur attire notre attention sur cela. Véritablement. Beaucoup de gens disent, mais est-ce que dans le Nouveau Testament, vous avez trouvé qu'on a fait ci, on a fait ça, ou que Jésus a eu besoin de purifier une eau, etc. Je dis, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament n'a pas besoin d'être reprécisé dans le Nouveau Testament. Certains disent, quand Jésus n'a pas fait, c'est que ce n'est pas important. Moi, je dis le contraire. Je dis, quand Jésus a trouvé que c'était important, il a fait. Quand Jésus a trouvé que préciser une nuance dans ce qu'il apportait, il l'a précisé. Et il nous a dit, il est venu pour que la loi soit accomplie. Ça veut dire que ce qu'il n'a pas jugé bon d'annuler ou de proscrire demeure valable. Jésus a pris la peine pour les aspects de la loi qu'il devait corriger dans la nouvelle alliance, il a pris la peine de les préciser, justement. Donc, ce qui est dans l'Ancien Testament, qui sont les préceptes et la nature de Dieu, et que notre Seigneur Jésus n'a pas relevé pour changer, modifier ou l'améliorer d'une façon ou d'une autre, est accompli. Ces choses demeurent, justement, et doivent nous interpeller. D'où l'importance, véritablement, pour nous aujourd'hui, d'assainir même spirituellement fleuves, rivières, nappes phréatiques, le sol, la terre à partir des sources véritables, de faire par la prière comme ça des actions prophétiques d'assainissement de ces choses-là. C'est fondamental. La Bible nous enseigne dans dans le ministère du prophète Élisée, la Bible nous enseigne comment les eaux peuvent être mauvaises pour un pays. Les eaux peuvent être mauvaises pour un pays et apporter mort et stérilité. Il est fondamental que pour un pays, et ici même le pays est large, même notre corps humain, contient énormément, beaucoup d'eau, et presque à 60-75% constitué d'eau. Ce qui fait que quand les eaux même de notre corps sont souillées, notre propre corps, individuellement, porte mort et stérilité. C'est valable. Pour un pays, c'est valable pour une communauté, c'est valable pour un lieu. Vous imaginez simplement s'il y a dans les bassins de purification de l'eau, dans les sociétés qui se chargent de purifier l'eau pour en faire de l'eau potable pour toute une ville, lorsqu'il arrive que les citernes et tous ces circuits soit contaminée par quelque chose. C'est toute la population qui est en danger. Ça, c'est même une contamination seulement physique. Mais imaginez-vous sur le plan spirituel, tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc, lorsque sur le plan spirituel, en plus, c'est relâché, sans compter sur le plan physique, c'est tout le pays qui a mal. Donc, il est fondamental pour les fils de ne pas rester sans action, de ne pas rester laxiste, de ne pas rester inactif, spirituellement parlant, dans des saisons comme celle-ci. Je disais que la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de 2 Rois 2, en son chapitre, en son paragraphe 19 à 22, comment le prophète Élisée a délivré tout un pays de la mort et de la férité qu'apportait l'eau. Nous allons lire les versets, c'est important, et nous allons un peu nous attarder dessus, parce qu'il est important de comprendre pourquoi on fait certaines choses, et de comprendre dans quel sens on prie. Élisée venait de quitter Élie, qui a été enlevé par l'Éternel, et il a reçu, comme nous le savons nous tous, son manteau, et il a reçu, comme la parole nous le dit, la double onction, la sienne et celle d'Élie. Donc Élisée était un prophète vraiment loin de l'Éternel, rempli de l'onction de Dieu pour agir, pour acter. Et ce que nous allons lire là fait partie de ce premier miracle. On dit qu'il a pris le manteau, il a refrappé le Jourdain, il a retraversé pour rentrer sur ses pas de chemin qu'il avait emprunté dans l'autre sens avec le prophète Élie. Et il rentrait dans une niveau de la ville. Et les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et y jeta du sel et dit, ainsi parla l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait annoncée. Amen. Il y a des éléments importants qui attirent notre attention. Le séjour de la ville, c'est l'apparence de la ville, tout le système. Il attire l'attention ici et il dit à Élie, nous sommes dans une ville, quand on regarde en apparence, tout va bien, tout a l'air d'aller bien, que ce soit la gouvernance, que ce soit les relations entre les personnes, que ce soit tout ce qui est les habitants qui y demeurent, tout ce qui peut être matériel, physique, a l'air agréable, présent, excellent. Tu regardes les personnes, il dit le séjour du pays est bon, comme on le voit. Ça veut dire ce que nos yeux physiques voient. Ça a l'air normal, ça a l'air bien même. Les signes extérieurs de bien-être d'un pays, du bonheur, de la sécurité, oui, sont visibles. Mais ça reste une illusion, une apparence. C'est un aspect qui ne traduit pas la véritable réalité de ce que l'on vit dans ce pays. Voilà ce qu'ils disent à Élisée. Parce qu'ils disent, mais, les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. C'est un cri. L'eau, le symbole de l'eau, nous allons nous attarder un peu dessus. Nous avons étudié dans la première partie, nous avons vu que nous étions dans une saison où il faut demander la grâce de l'eau, la grâce des pluies abondantes, la grâce des pluies de première et de l'arrière-saison. C'est le symbole de la bénédiction. Que ce soit les eaux de pluie, que ce soit les eaux des torrents, des brumes, des fleuves, des écluses, des cieux, on en parlait de ça, que ce soit des sources d'eau vive, des ruisseaux, des réservoirs, beaucoup. L'eau aussi est, bibliquement, a le sens d'être le sein maternel. C'est aussi la sève nourricière. Ça peut être comparé au liquide séminal, c'est-à-dire la semence, même qui apporte la vie. La salive, les larmes, etc. L'eau, c'est le symbole de quelque chose qui nourrit. Je disais tantôt que notre organisme était fait de 75% d'eau. Vous imaginez, si un corps commence à manquer d'eau, Ils souffrent de déshydratation et ça peut conduire à la mort. Lorsqu'on dit que ces eaux sont mauvaises, ces eaux sont désagréables, et au lieu d'apporter du bien, il apporte du mal. Il apporte la misère, la détresse, la souffrance, les calamités, l'affliction dans le corps. C'est le contraire de tout ce qui peut être agréable, de tout ce qui peut être plaisant, de tout ce qui peut être riche. Il continue en disant cela, que les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. En haut, il a dit, le séjour est bon, mais ici, il affirme que le pays est stérile. Donc, en apparence, ça a quelque chose d'agréable, de bien, mais en réalité, ce pays est stérile. Un pays qui est stérile, c'est tout. Un pays, c'est l'ensemble, non seulement des personnes, mais des territoires. Le sol, la faune, la flore, tout, la végétation, tout, tous les systèmes sont stériles. Tout ce qui est amené à porter la vie, amené à produire, amené à se développer, amené à se multiplier, est stérile. Et quand quelque chose est stérile, c'est qu'il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de multiplication. Il y a avortement, il n'y a pas de rendement, pas de croissance, pas de maturité. Quand quelque chose est stérile, il y a de la sécheresse, la pauvreté, le manque. Il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de percée. Il n'y a pas de santé, pas de propreté, pas de sainteté, pas de pureté, pas de bénédiction, pas de faveur, pas de ferveur même des personnes qui vivent là-bas. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de préservation. Oh my God. Les eaux mauvaises et le pays stérile. Stérile en tout. Le fruit de l'esprit est absent. Il n'y a pas d'amour, pas de joie, pas de paix, pas de douceur, pas de bonté, pas de foi, pas de patience, pas de tempérance, pas de bénignité, pas de... J'en passe. Sur tous les pans de la vie, que ce soit les personnes, les entreprises, les systèmes, le sol, la terre, les animaux. Il n'y a aucune productivité. C'est un pays qui est stérile. Tout est stérile. Les cieux, le ciel qui couvre, le sol qui reçoit, la végétation qui pousse dessus, les habitants, les maisons, tout est stérile. Vous savez que l'eau, par nature, il y a une parole de la Bible qui dit que dans Ecclésiaste 11, en son verset 1, Salomon nous dit, si tu jettes ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un élément qui circule. L'eau circule. Et sous plusieurs formes, il circule. L'eau du dessus des cieux, la Bible nous dit. Les nuages dans le ciel qui donnent la pluie, qui tombent, qui imbibent le sol, est absorbée. L'eau des mers et des océans, qui sont ravalés par les abîmes et les fonds marins pour traverser en nappe souterraine la croûte terrestre et rejaillir par les sources, deviennent des ruisseaux, plus des rivières, plus des fleuves, pour se déverser dans les mers et les océans. C'est tout un circuit. Et l'eau des mers et des océans est happée par le soleil. Ils deviennent vapeurs, s'élèvent dans les airs et ils imbibent la voûte céleste qui les transforme encore en nuages et puis en pluie. Et qui retombe sur la terre. C'est le circuit de l'eau. Rien n'échappe à l'eau. L'eau s'infiltre partout. Parce que tout a besoin d'eau. Le sol, les arbres, les animaux, les vivants, tout a besoin d'eau. L'atmosphère même est imbibée d'eau. Quand les eaux sont mauvaises, dans un contexte donné, c'est qu'il n'y a pas de bénédiction possible. Il n'y a pas de vie. C'est pour ça qu'il continue en disant, le pays est stérile. Il y a la mort. Il est fondamental, mes frères et mes sœurs. C'est valable pour nous en tant qu'individus, mais c'est valable aussi pour les territoires dans lesquels nous vivons. C'est valable pour l'entité de vie, les nations. Il est fondamental que les eaux d'un pays ne soient pas mauvaises, physiquement comme spirituellement. Il est fondamental que ces eaux ne soient pas mauvaises. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que dès qu'il a dit ça, Élie qui comprend ces choses, Élisée, pardon, qui comprenait ces choses, il a seulement dit, Apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. On ne peut pas s'étendre ici sur la signification spirituelle du plat neuf, du sel, etc. Nous savons seulement que le sel même, physiquement, de ce que nous savons, est un agent de purification. C'est un agent conservateur. Mais le sel aussi, spirituellement parlant, c'est un élément majeur de ce que l'Éternel attend de nous. Il dit « Nous sommes le sel du monde ». C'est un élément, c'est un facteur d'alliance de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, lorsque Moïse enseignait au peuple comment faire des offrandes, il disait que l'offrande qui doit être entièrement consommée par le feu, l'offrande de la fleur de farine, aucune offrande qui sert d'holocauste à l'Éternel ne peut lui être donnée sans sel. Toutes nos offrandes doivent contenir du sel. C'est un lien d'alliance. Au début, dans la première partie de notre travail, on a parlé de la nécessité de renouveler notre alliance avec l'Éternel, de renforcer notre consécration, de s'engager de nouveau. Et nous voyons ici que c'est la première chose que Élisée a demandé au peuple. Apportez-moi un plat neuf. Le plat neuf, c'est la manifestation du désir du cœur du Fils d'aller au Père. C'est ce désir d'engagement nouveau. Et le sel, c'est cette expression de cette alliance. C'est un facteur de l'alliance avec l'Éternel. Élisée a demandé ça. Et il alla aux sources des eaux. Il remonta à la source des eaux. Élisée avait la double onction. Élisée était en ville quand on lui parlait que les eaux sont mauvaises. Élisée aurait pu rester en ville et agir sur les eaux là dans la rivière là tout de suite. Mais si Élisée a pris la peine de remonter aux sources, c'est parce que ça a une importance, ça a même un sens spirituellement parlant. Il monte à la source pour prendre les choses à la base, parce que l'eau des sources est le lieu où l'eau est la plus pure, nous le savons. Il ne faut pas qu'on le sache seulement sur le plan physique pour boire de l'eau de source, mais sur le plan spirituel, c'est important parce que l'eau des sources jaillit du sol après avoir traversé le roc, les nappes phréatiques, après avoir traversé le roc. Spirituellement, c'est justement cette nature, cette nourriture, après avoir traversé Christ, arrive au moment où il est le plus pur. Et c'est à cet endroit que toute chose doit être faite. Parce que c'est de cet endroit que si on sème la vie va être transportée partout. Alléluia. Mais si on sème la mort au niveau des sources, la mort doit être répandue. C'est pour ça que les actes païens, les actes d'idolâtrie, les actes païens, les incantations qui sont faites au niveau des sources, des eaux, propagent la mort. Propage la stérilité. Donc, il est important pour les enfants de Dieu de comprendre la nécessité, aux sources, physiquement ou spirituellement, de répandre la vie en Christ, de répandre le sang de Jésus, afin qu'à partir de ces points, la vie se répande. Élisée est monté aux sources, et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a jeté le sel. Dans le lien de cette alliance, il s'est attaché à l'alliance de Dieu et son peuple. Et nous, aujourd'hui, nous nous attachons à ce qui nous lie à Dieu. Et cette alliance, c'est en Jésus-Christ. Cette alliance, c'est dans le sang de Jésus. Et que nous déversons comme ça dans les sources d'eau pour assainir, pour que la vie se reponde. Élisée a fait une déclaration forte. Il a dit, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et la parole témoigne que et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen, amen, amen. Mes frères et mes sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir d'être enseignés de ces choses et de pouvoir proclamer le règne de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur, partout. Partout, pour faire reculer le royaume de Satan. Nous avons le devoir de faire ces choses. Et en ce mois de juin, en cette saison d'été, c'est un élément fondamental que nous devons prendre en compte. Parce que pendant ces jours, ces 4 jours, de région en région, de zone en zone. Les initiés vont s'atteler à le faire. Et nous ne devons pas rester inactifs. Priez, proclamez, en connaissance de cause. Parce que si vous visualisez ce que vous êtes en train de faire, si vous voyez ce que vous êtes en train de faire sur le plan spirituel, vous l'atteindrez. L'Éternel a toujours dit, regarde et vois. Nous avons la nécessité de voir pour posséder. Nous avons la nécessité de voir pour occuper. C'est pour ça qu'on prend la peine d'enseigner, pour que dans votre esprit, que vous ayez la vision de ces choses, pour que spirituellement, en esprit en vérité, vous puissiez avoir un impact par votre déclaration prophétique au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le deuxième aspect qui rejoint un peu l'autre, c'est dans cette même saison, nous savons qu'aujourd'hui, on est venu greffer la fête de la musique à cette date, fameuse date. Et cette fête de la musique se percute de pays en pays, justement sur ces 3 jours aussi. Et c'est dans le même, on va dire aux novices, vous fêtez, vous célébrez la musique. Oui, mais au départ, on vient célébrer quoi? C'est parce que dans ce monde, il y a une nécessité d'une ambiance festive. Il faut que les gens soient en festivité dans ces saisons-là. Et beaucoup sont en festivité dans l'ignorance. Mais vous, fils de Dieu, ne soyez pas dans l'ignorance. Ayez de la connaissance pour agir, pour intercéder, pour vous manifester à la création, pour les délivrer aussi et pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire descendre le règne de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Éternel Dieu de gloire, Papa. Nous nous chargeons, Papa, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, du désir, au Seigneur, de ton peuple de servir. Regarde au cœur des rachetés que nous sommes, Papa, et de notre consécration à toi, que ton esprit, au Père éternel, agisse. Commissionne-nous. Confie-nous, Père, Seigneur, au nom de Jésus. Reçois, au Père, notre consécration, au Papa, comme une offrande d'odeur agréable. Reçois le sel de notre alliance, au Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, agis au travers de nous et que nous déclarons avec la puissance de l'idée qu'aux sources, ô Père éternel, qu'aux 3 sources, Seigneur, de Père de puissance, du bon gerbier de jonc, Seigneur, sur le fleuve de la Loire, je jette le sel et je déclare au nom puissant de Jésus, j'assainis ces eaux et il n'y proviendra plus ni mort ni stérilité. Au nom puissant de Jésus, sur toute la France, partout au Père éternel, où des sources, Seigneur, sont visitées au Père éternel, par tous ceux qui font un culte païen, tous ces lieux au Père éternel. Je m'élève en esprit, Seigneur, de Père puissant, et je jette ce sel, Papa, de purification, le sang de Jésus, ô Dieu de gloire. Et je déclare, j'assainis ces eaux, et il n'y proviendra plus ni mort, ni stérilité, au nom puissant de Jésus. Oui, qu'il en soit de même, mon Père, pour toutes les personnes, Seigneur Dieu, dans les eaux, Père éternel, sont troublées, dans nos vies, Seigneur, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux qui sont maintenus captifs, au Père éternel. Ô Dieu, je prie, Seigneur, et je monte à la brèche. En ton nom, mon Seigneur. Et je leur fais boire, Seigneur, de ce sel. Je leur fais boire du sang de Jésus. Oui, Père éternel. Et je déclare chacune de ces personnes. J'assainis les eaux de vos corps. Et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang. J'asperge le sang de Jésus partout sur tous les territoires. Sur ces eaux, ces cours d'eau, sur ces sources dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.